Le lendemain, on me conduisit à l'usine Pearl River Plastic Production que le directeur, flanqué des deux vendeurs dont j'épuisais la patience, tenait à me faire visiter. Dans d'immenses hangars, quatre murs et un toit, architecture minimale, des centaines d'employés fabriquaient les jouets en silence. D'un bâtiment à l'autre, la répartition des tâches reproduisait le sexisme de nos sociétés. Les mâles manipulaient les voitures, les femelles les poupées. L'atelier des poupons, celui où avait officié Madame Ming, m'impressionna. D'amples bennes grillagées convoyaient des membres roses, identiques, classés. La caisse des têtes, la caisse des torses, la caisse des bras droits, la caisse des bras gauches, celle des jambes droites, celle des jambes gauches. Déversés brutalement, ces fragments anatomiques partaient sur des tapis roulants, puis étaient saisis par les ouvrières pour de brèves soudures afin de terminer à l'extrémité de la manufacture, assemblés en baigneurs. On aurait dit un abattoir à l'envers, où les êtres arrivaient morcelés et ressortaient entiers. 1000 bébés naissaient ici chaque jour. Parce que les femmes portaient un écran de papier sur le visage, des charlottes bleues autour des cheveux, elles semblaient des infirmières mettant des enfants au monde. Étrange nurse, précise, leste, sans état d'âme, qui accrochait une tête à un torse décapité, articulait des bras, vissait des jambes, rejetait à la poubelle un pied bancal ou un crâne fendu, tirait sur les carcasses pour tester leur solidité, jusqu'à ce qu'elle présentasse un ravissant nourrisson nu à l'infirmière chef, laquelle, en bout de chaîne, contrôlait sa viabilité. De prestes mains de couturière habillaient les élus de culottes, de pyjamas, de salopettes, avant de les agglutiner dans une caisse. Pour qu'on se crût en une maternité, il manquait la criaillerie, les gloussements, la liesse, les compliments, les rires. On n'entendait que les machines. Près de l'issue, j'observais les corps entassés. Ils évoquaient tant des individus réels que leur promiscuité me choquait. Leur similitude aussi me pétrifiait. Lequel choisir? Pour lequel opter? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? Pendant cette méditation, j'eus le malheur de contempler l'usine d'une façon panoramique. Les ouvrières asiatiques, masquées, chapeautées, affublées de blouses turquoises, se ressemblaient. Je frissonnais. Quoi? C'était cela, notre condition? Nous nous croyons rares, alors que nous provenons du même moule? Pareil, y compris par la prétention d'être unique. Afin de me détacher de ces considérations sinistres, je m'ébrouais, accomplis quelques pas, allais effleurer les poupons. Si aujourd'hui ils restaient interchangeables, demain, dès qu'ils seraient adoptés par un enfant, il se différencierait, rempli d'amour, tatoué d'une histoire, marqué par les expériences. C'est l'imagination qui singularise, l'imagination qui arrache à la banalité, à la répétition, à l'uniformité. Dans le destin des jouets, je repérais celui des hommes. Seule l'imagination, produisant des fictions et forgeant des liens rêvés, crée des originaux. Sans elle, nous serions proches, trop proches. Analogue, aplati les uns sur les autres dans les bennes de la réalité. Madame Ming bluffait légitimement. Parfois, le sort cogne d'une manière si abrupte qu'il suffit d'une pointe de fantaisie pour l'attendrir. Quand je songeais aux 3 années qu'elle avait passées ici, où la vie se réduisait à des tâches ineptes et réitérées 12 heures d'affilée parmi des collègues automates, je comprenais son besoin de s'évader, de partir. De respirer un autre air, oui. Dans cette prison, l'illusion demeurait le ciel par lequel on s'échappe. Le roman de ses 10 enfants la sauvait.